Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, le foot amateur va-t-il profiter de la deuxième étoile ? Deux mois déjà que la France a remporté la finale de la Coupe du Monde de football en Russie. Si l'enthousiasme du moment est un peu retombé, les conséquences à plus long terme commencent à se faire sentir. Ainsi, le championnat de France de Ligue 1 a-t-il battu son record de fréquentation lors de la première journée, en plein mois d'août ? Davantage de public donc, davantage de licenciés, c'est en tout cas ce qui s'était passé en 98 lorsque les Bleus avaient gagné leur première étoile. 2018 devrait enregistrer un phénomène identique. Alors on devrait logiquement en conclure que le foot français se porte à merveille. Mais ce n'est, semble-t-il, pas le cas pour le football amateur. Suppression des emplois aidés, baisse des dotations aux collectivités, obligations réglementaires. De nombreux clubs seraient au bord de l'asphyxie. Et certains d'accuser la FFF, la Fédération Française de Foot, pour son indifférence à l'égard des plus petits. Pourtant, avec les retombées financières liées aux résultats de l'équipe de France, avec l'argent des sponsors et des droits télé, avec celui des 2 millions de pratiquants qui payent leur licence chaque année, le foot français ne manque pas de ressources. Pourtant encore, le foot amateur est reconnu pour son rôle essentiel dans la détection et la formation des futurs joueurs de l'élite. Alors la victoire du 15 juillet dernier sera-t-elle l'occasion de renvoyer la balle ? Le foot amateur va-t-il profiter de la deuxième étoile ? C'est la question du soir en compagnie de quatre invités, quatre hommes ce soir. Ça va pas être très mixte, hein. Ça ne sera même pas du tout pour une fois dans le cadre de cette émission. Quatre invités, donc à commencer par vous, Pierre Samsonov, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur général adjoint de la FFF, donc la Fédération Française de Football, et vous y dirigez la Ligue de Football Amateur. Pour discuter avec vous, Jacky Servo, bonsoir.
Bonsoir.
Président de la Ligue de Football de Normandie et trésorier du bureau exécutif de la Ligue de Football Amateur. Troisième invité, Eric Thomas, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous présidez l'Association Française du Football Amateur. J'en déduis donc que ça n'est pas la même chose que la Ligue.
C'est une association libre et indépendante.
Et vous avez un passé de dirigeant. Vous avez dirigé l'association sportive Montlouis-sur-Loire. Et puis notre quatrième invité est économiste, c'est Pierre Rondeau, bonsoir.
Bonsoir.
Spécialiste de l'économie du sport, notamment du foot. Vous co-dirigez l'Observatoire Sport et Société à la Fondation Jean Jaurès. Et je renvoie à votre dernier ouvrage que vous avez publié aux éditions de l'Aude, fort opportunément au mois de mai, c'est-à-dire juste avant le Mondial. Le foot va-t-il exploser ? Alors je voudrais qu'on commence avec vous, avec... un diagnostic déjà par rapport à la fréquentation dans les stades. J'évoquais ce record de fréquentation pour la première journée de Ligue 1. On avait une seule fois dans le passé dépassé les 300 000 spectateurs pour les 10 matchs. C'est d'autant plus remarquable que ça s'est passé en plein milieu du mois d'août, à un moment donné où la fréquentation n'est pas censée être aussi importante. Est-ce qu'on constate sur l'ensemble des terrains français une hausse de fréquentation identique, Pierre Samsonov ?
On constate évidemment un enthousiasme extrêmement fort, notamment des plus jeunes, et une envie de pratiquer le football. Ça, c'est quelque chose qui est déjà tout à fait palpable.
Je pensais plutôt côté public, moi, pour l'instant.
Alors, côté public, c'est de toute manière une tendance depuis quelques années maintenant et qui est amplifiée par ce qui s'est passé autour de la Coupe du Monde. On a une Ligue 1 qui est de plus en plus attractive, qui fait de plus en plus recettes. Et évidemment, la victoire en Coupe du Monde va venir alimenter cette dynamique existante.
Si comparaison n'est pas raison, est-ce que quand on regarde ce qui s'est passé en 98, du point de vue de la fréquentation, on peut tirer
On a des études qui le démontrent, notamment pour 98 et pour la victoire des Bleus en 98. C'est ce qu'on appelle en économie un effet de mode. On l'a vu en 98. En tout cas, quand on étudie la fréquentation dans les stades, que ce soit les stades de clubs professionnels, voire les stades de clubs de division inférieure, un pays qui remporte une Coupe du Monde provoque nécessairement et automatiquement, je dirais, un effet sur l'affluence et de la billetterie. Il y a un effet en moyenne en France pour 98, on a une augmentation de 15 à 25% sur la fréquentation dans les stades jusqu'en 2001. On l'aura très certainement pour 2018, et chaque pays vainqueur de la Coupe du Monde, que ce soit en 2006, 2010, 2014, a eu un effet bonificateur sur la fréquentation.
Alors je ne sais pas si les championnats dans le football amateur ont tous repris, sans doute pas encore, Eric Thomas, mais est-ce qu'on peut aussi constater que cet afflux peut-être de spectateurs touche aussi le foot amateur et pas seulement le championnat de Ligue 1 ?
Pas vraiment. Non, pas vraiment. On remarque depuis une vingtaine d'années une désaffection autour des terrains du foot amateur. Je pense que la télé et l'offre télévisuelle et le nouvel appel d'offres va nous mettre des matchs le dimanche après-midi, là où il y a quand même...
C'est-à-dire qu'il y a tellement d'offres à la télé qu'on ne fait plus l'effort de se déplacer.
Exactement. On préfère rester dans son salon, regarder la Ligue 1. Donc nous, c'est véritablement pour les clubs, que ce soit de régional, de départemental, qui ont repris ou qui vont reprendre, c'est l'effet inverse, malheureusement.
Est-ce que vous partagez ce constat, Jacky Servo?
Effectivement, sur les compétitions en championnat, par contre, il y a toujours les effets Coupe de France, où là, il y a des derbies qui font qu'on attire beaucoup, beaucoup de spectateurs, surtout lorsque on avance dans les tours de la Coupe de France et qu'un club amateur qui passe certains tours se retrouve confronté à une équipe professionnelle. Et là, effectivement, vous attirez pas mal de spectateurs.
Alors ça, c'est sur la question de la fréquentation du public, sur la question du nombre de licenciés. Est-ce qu'on peut faire exactement le même constat, Pierre
Rondeau ? Il y a aussi des effets bonificateurs, je dirais, d'une victoire en Coupe du Monde sur le nombre de licenciés. Je reviendrai très rapidement sur l'effet bonificateur en termes d'affluence. Ça va s'étaler au-delà du foot professionnel, puisque, à titre d'exemple, dès le mois d'août dernier, il y a eu la Coupe du Monde féminine des moins de 19 ans en Bretagne, et tous les stade, certes petit, était plein. Chose qui n'avait jamais été vue jusqu'ici pour une compétition, je dirais, mineure de foot féminin des moins de 19 ans. Donc déjà, il y a eu un effet de mode à ce niveau-là, puisque tous les Bretons et les Bretonnes, se sont déplacés dans les stades de la compétition.
À voir d'ailleurs si ça durera, et je rappelle hein, d'ailleurs que la France organise la prochaine Coupe du Monde féminine.
Exactement. Hein, donc là, où il y aura...
Ce sera l'an prochain.
Espérons qu'il y ait un effet qui perdurera jusqu'en 2019, voire au-delà. Au niveau des licenciés, il y a eu un effet bonificateur en 98. Si je me trompe pas, l'augmentation était de 10% dès la rentrée 98. Dès le mois de septembre 98, une augmentation de 10% du nombre de licenciés. On peut tout à fait s'attendre à ce qu'on ait le même cas de figure pour 2018. Et je dirais même plus important, puisque maintenant on a un nouveau public qui apparaît depuis quelques années, c'est le public féminin. En 98, il n'y avait pas autant de clubs féminins, il n'y avait pas autant de pratiquantes du foot. Et en 2018, maintenant c'est devenu normal pour une femme de pratiquer le football. Et on devrait espérer, en tout cas s'attendre, à avoir une bonification aussi parmi les clubs féminins.
Est-ce qu'il y a des projections d'ailleurs qui sont faites au sein de la Ligue de football amateur en disant bah voilà, on table sur X% de licenciés en plus, Jacky Servo?
Écoutez, aujourd'hui, oui, on s'est fixé un objectif. On souhaite, dans le projet Ambition 2020 et à l'issue de la Coupe du Monde 2019, on souhaite avoir 200 000 licenciés féminines. On est à 160 000, on est parti il y a 8 ans, on était à 50 000 licenciés. On est aujourd'hui à 160 000 et on s'est fixé un cap à 200 000 licenciés à l'horizon 2020.
Le nombre de licenciés aujourd'hui en France, 2 160 788. Bon, je ne vous garantis pas le 788, hein, c'est le dernier chiffre qu'on a trouvé, ça a pu évoluer depuis, mais donc plus de joueuses, plus aussi de joueurs, c'est-à-dire ça continue quand même à avoir ce côté très, très attractif, une victoire en Coupe du Monde auprès du jeune public, notamment Pierre Samsonov.
Oui, plus de joueuses, plus de jeunes, c'est une tendance de fond. On a aussi un peu moins de joueurs seniors. Et évidemment, à la fois sur le public féminin et sur le public des jeunes, on s'attend à avoir une augmentation assez forte de la fréquentation. On n'a pas de chiffres véritablement fiables aujourd'hui, puisque les licences, elles sont en train d'être prises et d'être traitées. Mais on peut s'attendre à un phénomène à peu près équivalent à ce qu'on avait connu en 98.
Bon, alors donc, on peut résumer pour l'instant, c'est-à-dire pour le foot amateur, on verra bien si ça se traduit par une hausse de la fréquentation. Pour l'instant, c'est plutôt assez différent de ce qu'on peut remarquer soit pour l'équipe de France, soit pour la Ligue 1 ou la Ligue 2. S'agissant du nombre de licenciés, là, on est plutôt sur une phase ascendante. Encore faut-il pouvoir accueillir ces nouveaux licenciés, pouvoir les encadrer. De ce point de vue, Eric Thomas, est-ce que vous diriez que tous les clubs sont en mesure aujourd'hui de dire oui aux parents, par exemple, qui vont venir inscrire leur enfant au foot?
Bien sûr que non. Bien sûr que non, parce que on établit l'organisation des équipes au mois de mai-juin, pour la saison suivante, on manque cruellement d'éducateurs. Voilà, parce que plus les enfants sont plus petits, plus il faut un taux d'encadrement d'éducateurs formés important. Donc parfois on peut pallier avec des papas qui ont joué au foot et qui peuvent donner un coup de main le samedi.
Donc mais, à effectif constant, ça peut pas fonctionner.
Bah il y a beaucoup de clubs qui nous ont dit qu'ils avaient arrêté les inscriptions, qu'ils refusaient les gamins et les gamines. Donc la mixité, c'est nouveau dans le football. On connaît pas bien, donc il faut des vestiaires consacrés. Et puis surtout, je dirais que c'est là où je veux interpeller la Fédération française de football. Il nous faut des terrains synthétiques. C'est un levier de développement du foot amateur formidable, que ce soit masculin ou féminin. Nous, à l'AFA, on pense que la femme est l'avenir du foot. Donc, il faut véritablement, si on veut changer l'état d'esprit sur les terrains et en dehors du terrain, doter le monde amateur de terrains synthétiques.
Alors, si vous voulez bien, on va revenir dans un instant sur la question des équipements, mais sur la question de l'encadrement, Jackie Cerveau, il y a des parents, il y a des joueurs, en tout cas des apprentis joueurs, à qui aujourd'hui on est obligé de dire bah non, on peut pas vous inscrire cette année en tout cas parce qu'on va manquer d'encadrement.
Alors peut-être que ça existe dans certains clubs. Il y a des clubs qui ont augmenté leurs effectifs. Ce qu'il faut regarder, c'est comment on fait pour encadrer ces jeunes, mais surtout, est-ce qu'il faut continuer à s'entraîner de la façon ou former des jeunes de la façon dont on le faisait il y a quelques années. Aujourd'hui, on peut réduire les créneaux et sur un créneau de la même durée qu'avant, avoir sur le terrain davantage de jeunes.
Que se passe-t-il aujourd'hui ? Ça veut dire quoi par rapport entraînements qui sont beaucoup trop longs,
on peut faire plus court. Sur les jeunes, au lieu de faire un entraînement d'une heure et demie ou deux heures, pourquoi on ne fait pas deux fois une heure avec des phases plus intensives ou du moins des phases plus intéressantes, plus ludiques ? Parce qu'à un moment donné, on s'aperçoit qu'il y a des jeunes qui décrochent. Ensuite, il y a des problèmes d'installation. On est aujourd'hui en France sur une façon de travailler qui est très simple. C'est le mercredi après-midi pour les gamins, c'est le samedi. Mais qu'est-ce qui nous empêche de travailler sur le mardi soir, sur le jeudi soir, sur le vendredi soir ?
On parle de périscolaire. Un parent qui va vous dire « Non, j'ai pas envie que mon gosse il aille sur le terrain le soir, je préférais que ça soit sur... sur des jours plus traditionnellement réservés au sport. »
On peut travailler sur le périscolaire aussi. Et aujourd'hui, on a des emplois aidés justement sur le périscolaire. Et pour justement encadrer ces jeunes, je pense qu'à un moment donné, il faut travailler différemment de ce que l'on faisait jusqu'à présent.
Je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites, mais à partant de là, se pose bien évidemment la question des infrastructures. Si on est obligé de se poser la question de la durée des entraînements, des jours des entraînements, que ce soit le mercredi après-midi, le samedi après-midi ou le mardi soir, se pose bien évidemment la question du manque actuel en France et dans certains quartiers, du manque d'infrastructures sportives. Parce que vous dites par exemple le mardi soir plutôt que le mercredi après-midi, mais si moi, adulte, jeune adulte, j'ai envie de jouer au football, ça sera pas le mercredi après-midi, ça sera le mardi soir. Donc mise en concurrence directe entre les enfants, les nouveaux entrants qui veulent pratiquer le football et les amateurs, les 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans qui aussi pratiquent le football. Donc au-delà de l'organisation même du football et du football amateur, moi je pose la question des infrastructures sportives qui vont au-delà même du football.
Et infrastructures et taux d'encadrement, est-ce que ce serait quand même pas plus simple ? Alors bien sûr plus coûteux, Pierre Samsonov, mais d'augmenter le taux d'encadrement.
Alors il y a des mesures qui sont prises pour le faire, mais je reviens quelques instants sur la question des infrastructures. Aujourd'hui, et vous le savez, la compétence en matière d'infrastructure, c'est pas celle de la Fédération française de football. Nous, on appuie des dispositifs de financement et on mobilise des crédits fédéraux pour aider à la construction des infrastructures, mais ce sont les collectivités locales et principalement les communes qui ont la compétence pour le faire. Donc, on a un problème effectivement d'infrastructure, mais qui est concentré dans un certain nombre de régions. On n'a pas un manque global d'infrastructures en France, on a certaines régions qui sont très déficitaires. Et c'est vers l'incitation à l'investissement dans ces régions que nous, on essaye d'orienter nos dispositifs de financement. De la même manière sur l'encadrement.
Sauf qu'on est dans une période où il y a une baisse des dotations de l'État aux collectivités locales, et j'imagine que ça se ressent aussi du coup dans les investissements de ces collectivités.
C'est tout à fait exact, mais vous vous doutez bien qu'à l'échelle du budget des collectivités locales, du budget global d'investissement des collectivités locales, celui de la Fédération française de football n'est rien. Nous, on peut aider, bien évidemment, sur des projets existants, quand on a des porteurs de projets. On peut accorder des financements complémentaires qui permettent de boucler un tour de table. On ne peut pas prendre la responsabilité, ni de la propriété, ni de la construction intégrale de l'infrastructure en question.
Éric Thomas ?
Moi, à ce moment de notre débat, je vais faire une proposition. Moi, je pense que c'est possible, au contraire, que la Fédération a un outil puissant qui est son budget, qui est aujourd'hui de 250 millions d'euros, et qu'elle peut dire, avec un cahier des charges défini, un appel d'offres européen, j'ai la volonté de construire des terrains synthétiques, 200 par an, sur 5 exercices budgétaires, et je fais des partenariats avec les régions, les départements, évidemment les villes d'accueil, qui sont les propriétaires des équipements. Et à partir de là, un terrain synthétique, On en a construit un à Mont-Louis il y a 3 ans, 750 000 euros TTC avec l'éclairage, le premier de France avec l'éclairage LED. Donc, c'est un formidable outil. Je l'ai dit, le coût, automatiquement, vous le diminuez de 750 à 550 ou 500 000. Et vous faites faire des économies à l'État parce que vous n'avez même pas besoin de mettre l'État dans la boucle financière.
Donc pour vous, ça veut dire que pour vous, Éric Thomas, s'il y a un problème du côté de la FFF, et je vais évidemment faire réagir Jackie Servo et Pierre Samsonov, mais c'est moins en termes, comment dire, d'investissement de la Fédération française de football que du type d'investissement qui est réalisé aujourd'hui pour le football amateur.
Il faut connaître.
Ou c'est aussi le niveau qui vous pose problème. C'est-à-dire, est-ce que vous considérez que la FFF ne donne pas suffisamment d'argent?
Alors, elle n'en donne pas suffisamment. Elle n'a pas la volonté d'aider suffisamment le foot amateur parce qu'elle ne le connaît pas bien. Et il y a aussi une autre difficulté qui est majeure. Puisqu'on souffre d'asphyxie, c'est qu'on nous ponctionne énormément d'argent. On a ponctionné 150 millions d'euros aux 14 000 clubs amateurs l'an dernier. C'est énorme. C'est 68 euros par licence.
D'où vient ce chiffre? Parce qu'on vous entend énoncer ce chiffre et on a du mal à arriver sur les mêmes bases de calcul.
Cotisation licence.
Oui.
La licence a augmenté d'un euro cette année.
Certes.
C'est une très mauvaise idée. Je vous le dis parce que c'est les clubs qui vont l'encaisser. Quand vous avez une licence,
au final, ça représente 2 millions d'euros. On est loin des 150 millions d'euros.
2 millions plus 2 millions, ça fait beaucoup.
Mais il faut arriver à 150, il en faut.
Je développe. Cotisation licence qui augmente d'un euro cette année et de 50 centimes la saison prochaine. Très mauvaise idée. Ensuite, vous avez les engagements des équipes. Tous les engagements des équipes, quand vous engagez une équipe U13 en championnat départemental ou une équipe U15 en championnat régional, vous payez à nouveau. Toutes les amendes disciplinaires, on n'en peut plus. Des amendes disciplinaires.
Et tout cet argent, il va dans les caisses de
la fédération, des ligues régionales et des districts départementaux, plus les frais d'arbitrage, plus la formation de nos éducateurs. On n'en peut plus.
Bon, alors là, on est vraiment au cœur du débat sur le financement du football amateur. Jackie Servo, donc je rappelle, président de la Ligue de Normandie, trésorier du bureau exécutif de la Ligue de football amateur, ce qui veut quand même dire qu'à la FFF, il y a quand même des gens, j'imagine, Éric Thomas, qui s'y connaissent un petit peu dans ce sujet. Ce que nous dit Éric Thomas, c'est qu'en gros, le foot amateur donne beaucoup d'argent, par contre, on ne lui en reverse pas beaucoup.
Écoutez, je voudrais ouvrir une parenthèse, je la referme aussitôt. On parle d'amendes disciplinaires. Là, après, vous savez, les amendes disciplinaires, la fédération ou les ligues ou les districts les perçoivent, mais c'est le comportement des joueurs.
Amende disciplinaire, ça peut être, c'est quoi, c'est un carton jaune,
carton rouge. Et là, sincèrement, on peut pas dire qu'on ponctionne, c'est du comportemental. Donc voilà.
Alors, referme
la parenthèse.
Sur les équilibres globaux, disons.
Par rapport au football amateur, je rappelle qu'on a augmenté les aides en 8 ans de 35%. Et 35%, ça représente 20 millions d'euros qui sont destinés au football amateur.
Ça veut dire, alors, en gros, chaque année, la Fédération française de football donne combien au football amateur?
30% à peu près du budget. Le budget, aujourd'hui, il est de 250 millions, un peu plus de 250 millions. Il y aura, pour la saison 2018-2019, 86 millions d'euros qui vont être reversés au football amateur.
Mais de quoi parle-t-on? Excusez-moi, mais ces sommes, elles sont stratosphériques. Mais concrètement, quand vous dites que vous donnez, par exemple, 15 millions d'euros aux championnats nationaux, on n'est plus dans le foot amateur, on est dans le championnat semi-professionnel. Une équipe de nationale, aujourd'hui, elle est quasiment professionnelle. Alors les joueurs ont un contrat.
Alors, ces 85 millions, ils sont destinés à qui et à quoi? Je ne vais pas vous demander de me faire la liste des clubs.
Je ne vais pas vous faire la liste des clubs, mais je peux vous donner les grands axes.
Ouais.
Puisqu'on aide au fonctionnement et à la structuration, que ce soit des ligues et des districts, à hauteur de 14 millions d'euros. On aide à l'emploi. Et cette année, on a fait un très gros effort sur l'emploi vis-à-vis des clubs. Jusqu'à présent, on destinait 450 000 euros à l'emploi des clubs. On va passer à 950 000 euros. On ajoute 500 000 euros pour aider les clubs à acquérir des emplois. Et les aides, ce n'est plus des petites aides, c'est des aides importantes sur 4 années pour justement pérenniser ces emplois.
Pierre Samsonov, la France a gagné la Coupe du Monde de foot. La FIFA, du coup, lui a versé une somme plus importante peut-être que ce qui avait été budgété au départ. Je crois que le budget avait été basé sur le fait que la France aille jusqu'en quart de finale. Plus on gravit d'échelons, plus on a droit à une prime importante de la part de la FIFA. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura peut-être un petit bonus, un petit peu plus que 85 millions d'euros qui finalement iront au football amateur? Ou bien est-ce que ça n'a pas encore été décidé? Je crois qu'il y a un comité exécutif de la fédération demain.
Vous êtes très bien informé.
Noël Le Graët, le président va peut-être lancer une petite aide supplémentaire après nous avoir écoutés.
Plus qu'une petite aide, et je sais qu'il nous écoute. Oui, effectivement, il y a un effort structurel en faveur du développement du football amateur. Jacques Servaux l'a évoqué. Il y aura un effort particulier lié non pas aux résultats financiers de la Coupe du Monde en tant que tel, mais lié à la dynamique justement que ça crée dans le football en règle générale, et lié à l'investissement constant de la Fédé dans le football amateur. Donc on va débloquer une enveloppe de 10 millions d'euros, ça a déjà été annoncé. On va discuter demain, et ce sont les membres du comité exécutif de la FFF qui décideront de son affectation, mais l'orientation, c'est de la consacrer au club, et dans les domaines qui sont décisifs pour pouvoir accueillir des licenciés, des aides en matériel, des aides en formation, justement, pour leur permettre de passer ce cap de l'accueil de nouveaux licenciés. Donc on n'est absolument pas sourd à tout ce qui se dit sur les besoins du football amateur, parce qu'ils existent, mais on a des réponses qui sont des réponses permanentes depuis quelques années maintenant, au travers de l'évolution de nos budgets, et puis on aura cette opération particulière qui va venir donner un vrai coup de booster au développement du football amateur.
Pierre Rondeau.
Oui, moi je voudrais simplement sortir de ce débat club amateur versus fédération, FFF, parce qu'on a tendance à oublier aussi le rôle nécessaire et indispensable de l'État, qui ne cesse de se dessaisir de ce problème, de cette problématique, en laissant finalement, je dirais, cette espèce d'engueulade, si je puis dire, entre les représentants des clubs amateurs et la Fédération Française de Football, en disant que voilà, ce sera la fédération ou aux fédérations globalement de financer le sport et le sport amateur. Moi, je pars du principe que l'État aussi a un rôle à jouer et un rôle essentiel. On parlait tout à l'heure des infrastructures. Les infrastructures sont aussi et doivent d'abord être construites par l'État, les collectivités, les régions, et non pas par la fédération.
Et j'ai essayé désespérément tout à l'heure d'évoquer l'encadrement avec ce qu'a appris, semble-t-il, la nouvelle ministre des Sports, Roxana Maracineanu, en arrivant justement à son ministère, ce plan de 1600, suppression de...
Le conseiller technique et sportif.
Voilà, conseiller technique
et sportif. Qui sont finalement les encadrants.
Alors, semble-t-il, il n'y aura plus de suppression finalement. Elle a vu le
Premier
ministre.
Qui ne pense pas directement touche le football, qui... vu que sa fédération est déjà très riche, n'a
pas besoin
de... Mais
en tout cas, ce type de désengagement peut avoir un impact sur le football, et notamment le football amateur.
Parce qu'il faut vraiment considérer le sport amateur et particulièrement le football, avant d'être un coût, c'est d'abord un investissement d'avenir. Donc quand bien même il s'agisse de la fédération ou de l'État, investir dans le football, c'est un effet multiplicateur sur le très long terme. Que ça soit, et d'ailleurs, je pense que la fédération a très bien compris, puisqu'elle va réinjecter de l'argent en faveur du foot amateur. Mais l'État aussi doit être le garant de ce soutien sportif, social et sociétal en faveur du sport amateur et particulièrement du football. À titre d'exemple, un seul exemple, mais qui peut être minime, qui peut être relativisé. En 98, quand on gagne la Coupe du Monde, la ministre des Sports de l'époque, Marie-Georges Buffet, met en place un plan d'investissement de 40 millions d'euros en faveur du sport amateur et du foot amateur. 20 ans plus tard, une génération plus tard, nous sommes champions du monde. Les jeunes sportifs d'aujourd'hui, les Mbappé et autres champions du monde, ont bénéficié de ces 40 millions d'euros en 98. Donc de la même manière, pourquoi en 2018 on ne pourrait pas sacraliser le budget du ministère des Sports et injecter encore plus d'argent dans le sport pour soutenir les générations futures? On parle des JO 2024, on nous annonce 80 médailles comme objectif. Comment pourra-t-on former cette génération? Comment pourra-t-on embaucher des formateurs et un encadrement compétitif sans la manne essentielle de l'État, sans la manne essentielle des bourses publiques? Et si on laisse faire finalement les fédérations agir seules et en parfaite autonomie et en, pour la plupart, en difficulté financière.
Et c'est notamment d'ailleurs pour dénoncer ce désengagement de l'État que le député La France Insoumise, François Ruffin, était intervenu à l'Assemblée nationale de manière assez spectaculaire, puisqu'on se souvient que dans son intervention, pour parler justement des petits clubs, il avait montré le maillot, je ne me souviens plus précisément d'ailleurs de quel club. Je vous propose juste d'en réécouter un court extrait, c'était le 7 décembre dernier.
Madame la ministre, le budget consacré au sport amateur est dérisoire comparé aux milliards déversés sur l'élite. J'ai vérifié hier soir sur Internet, le budget de la Ligue professionnelle de football s'élève à 850 millions d'euros contre 214 millions pour la Fédération française. Autrement dit, en France, 4 fois plus d'argent est dépensé pour les 40 clubs pro et leurs 1650 joueurs que pour les 2,1 millions d'amateurs et les milliers de clubs. Quand le marché donne tout à une élite et rien ou si peu aux gens, quel est notre rôle à nous, politiques, à vous, pouvoir public, sinon de rétablir la balance un minimum par la loi?
Cette description de François Ruffin, elle vous paraît juste, Éric Thomas?
Elle est limpide. Elle est limpide. Moi, à partir de nos échanges, je voudrais aussi que la fédération soit plus démocratique. Parce qu'aujourd'hui, on parlait des clubs professionnels.
Ça, c'est l'ancien candidat à la présidence de la FFF qui parle.
Ce sont les seuls, les clubs professionnels qui votent lors des élections à la Fédération française de football. Quel mépris pour les 14 000 clubs amateurs qui n'ont aucun droit de vote. Nous, on a pu se présenter à l'élection, on ne peut pas voter. Le droit élémentaire d'un citoyen, c'est de pouvoir choisir. Or, nous, notre demande...
Ça changerait quoi? Ça
change tout.
Ça change tout. Parce que d'un seul coup, le foot amateur serait mieux considéré, vous pensez?
Bien sûr. On a été reçu à l'Élysée lundi par Xavier Mourin, qui est le conseiller sport d'Emmanuel Macron. On lui a remis nos propositions. C'est la proposition majeure. Ça change tout parce que, enfin, on a un vrai pouvoir. On peut choisir nos représentants. On peut choisir surtout le projet d'avenir pour le foot français. Parce qu'aujourd'hui, le foot français, il avance sur une seule jambe. Essayer de jouer au foot à cloche-pied, c'est difficile. Alors que si vous jouez...
Déjà qu'avec mes deux jambes, moi j'ai eu du mal quand j'étais plus jeune. Donc, Jacques Isserot.
Oui, je voudrais apporter quelques précisions quand même. Monsieur Thomas, vous dites que c'est pas démocratique. Vous avez eu l'occasion de vous présenter trois fois aux élections de la présidence, puisque depuis 2011, il y a une nouvelle gouvernance qui prévoit qu'un homme peut présenter une équipe avec un projet. Donc, à trois reprises, vous vous êtes présenté. Je rappelle quand même que ce n'est pas que les clubs professionnels. 63% des voix viennent du monde amateur. Donc, les amateurs ont bien, à un moment donné, votent sur l'équipe qu'ils souhaitent voir arriver à la tête.
Jamais.
Mais bien sûr.
Jamais.
Mais bien sûr.
À aucun moment.
Mais bien sûr.
Bien sûr que non.
Bah, écoutez.
Bien sûr que non.
Expliquez-moi comment les clubs professionnels pourraient élire le président de la fédération si les clubs amateurs n'ont pas leur mot à dire.
Il y a un problème qui est majeur, je vais le résumer en deux chiffres. 216 grands électeurs pour 2 200 000 licenciés. C'est un vrai problème de démocratie et de transparence.
Ces 216 grands électeurs, ils viennent précisément des clubs. C'est une démocratie représentative.
Moi, quand j'ai voté en tant que président de club, pour mon président de district, c'est pour un projet départemental, je ne savais pas s'il était pro du Chaussois ou pro Le Grette. Quand j'ai voté pour mon président de ligue, c'était en fonction du projet régional. À aucun moment, on nous a demandé mandat pour voter en notre nom pour le président de la Fédération française de football. Et c'est là un point essentiel de la gouvernance de la Fédération française de football. Les clubs amateurs ne votent jamais et certains clubs votent deux fois. C'est un vrai souci.
Parce que vous pensez véritablement que quelqu'un qui va voter pour un projet au niveau départemental va aller voter pour un projet complètement contraire ou opposé au niveau national? Je pense qu'il y a quand même une forme de cohérence.
N'ayez pas peur de la démocratie. N'ayez pas peur de la démocratie.
Alors là, on est dans un vrai débat politique très, très intéressant. Mais je voudrais qu'on évoque peut-être un autre thème pour poursuivre la conversation, qui est ce que finalement peut-être l'argent du football, et là je dépasse simplement la FFF, ce que l'argent du football, enfin de quelle manière l'argent du football, qui est important, grâce aux droits télé, hein, notamment grâce au prix des transferts, la façon dont le football amateur en profite. On parle beaucoup, alors par exemple Pierre Rondeau, de ce tissu formidable qui existe en France, qui a permis justement à des Mbappé, à des Benjamin Pavard d'émerger jusqu'au plus haut niveau. De quelle manière se fait la redistribution? C'est-à-dire, est-ce que quand ces joueurs-là, par exemple, sont achetés par un autre club, notamment un autre club à l'étranger, alors c'est pas le cas de Kylian Mbappé qui joue au Paris Saint-Germain, mais est-ce que l'argent du transfert revient en partie aux clubs qui les ont formés?
Oui, il y a heureusement d'ailleurs que ce genre de redistribution existe entre les clubs, à la fois entre les clubs professionnels vers les clubs amateurs, puisque les clubs amateurs forment les futurs champions professionnels. Donc il y a ce qu'on appelle une forme de taxe sur la formation, en tout cas de redistribution sur la formation, où 3 à 5% est redistribué du transfert total sur l'ensemble des clubs qui ont formé le joueur professionnel transféré. Donc il y a ce genre de redistribution qui existe. Il y a aussi, vous l'avez dit, sur les droits TV, il y a ce qu'on appelle la taxe Buffet, hein, qui vient de l'ancienne ministre des Sports, Marie-Georges Buffet, qui prélève un montant de 5% sur le total des droits TV de sport professionnel, donc à 80% sur le football. Taxe, d'ailleurs, soi-disant passant, qui est plafonnée. Donc, malgré, vous l'avez
c'est-à-dire
dit...
C'est-à-dire 5%, mais pas plus de
30 millions temps. D'euros.
D'accord.
30 millions d'euros, donc c'est-à-dire que là, une Ligue 1 qui en 2020...
Qui est plafonnée depuis quand, d'ailleurs?
Depuis 97, sa mise en place, la taxe Buffet.
Sachant que les droits télé ont explosé depuis.
Et justement, là, on parle d'une Ligue 1 qui va passer en 2020 à 1,153 milliard d'euros. On ne pourra pas prélever ces 5% du milliard. Donc on ne pourra pas améliorer le financement du sport amateur, parce qu'en gros, cette taxe Buffet ne va pas directement au football amateur, mais vient financer ce qu'on appelle le CNDS, le Centre National de Développement du Sport, qui finance l'ensemble du sport amateur.
Qu'est-ce qu'on pense de ces taxes et peut-être de leur revalorisation à la FFF, Pierre Samsonov? Il faudrait déplafonner, par exemple, cette fameuse taxe Buffet dont nous parlait Pierre Rondeau?
Ça, c'est une décision, vous vous en doutez, qui appartient pas à la FFF. C'est une mesure législative. Pour le coup, il y a de vrais besoins d'investissement dans le sport amateur, et ça, je pense qu'on est tous d'accord sur ce sujet. Il ne faudrait pas que ce soit de nouveaux prélèvements sur le football qui viennent financer l'ensemble du développement du sport français. Et je redis ce qui a été dit tout à l'heure. Je pense véritablement qu'il y a une politique publique à redéfinir sur le sujet.
C'est pas en tout cas en passant forcément par la fiscalité qu'on trouvera la bonne méthode.
C'est un pis-aller.
Mais il faut bien comprendre, je précise, il faut bien comprendre que quand bien même on met en avant la fiscalité comme si c'était une forme de diabolisation, on va diaboliser parce que c'est un manquement à la compétitivité des clubs professionnels français face à la concurrence européenne, la fiscalité c'est pas un coût, c'est pas un impact négatif, c'est aussi une forme d'investissement, je le répète. Prélever de l'argent sur les budgets des clubs français, c'est aussi pouvoir réinvestir derrière ce montant pour le sport amateur et donc pour la génération des futurs champions et championnes. On a aujourd'hui le premier pays exportateur de football en Europe, le premier pays producteur de footballeurs en Europe, aussi notamment grâce à la fiscalité qui permet ce mécanisme de redistribution. Allez voir en Angleterre où la fiscalité est très faible, moins de 30% des joueurs en Première Ligue peuvent intégrer l'équipe nationale, sont anglais, 30%.
C'est vrai que du point de vue de la fiscalité, de la compétitivité, on va dire, de la formation française, Jackie Cerveau, de toute manière, ça n'empêche pas aujourd'hui la grande majorité des joueurs de l'équipe de France, par exemple, d'évoluer dans des championnats étrangers. Donc même si la fiscalité est un peu plus importante, finalement, on n'aurait peut-être pas plus de difficultés à garder ce qu'on veut garder.
Bien sûr. Par contre, ce qui est important, et vous le soulignez, c'est les retombées. Moi, j'ai un club dans ma ligue qui a formé Ousmane Dembélé.
Lequel ?
L'Evreux Football Club, 27. Eh bien, aujourd'hui, son transfert, lorsqu'il est parti à Barcelone,
160 millions d'euros,
voilà, permet à ce club d'avoir un avenir intéressant.
Vous avez une petite idée du coup du montant qu'a pu récupérer ce club?
Oui, ils ont récupéré un montant très intéressant, et c'est un club qui est très formateur et qui en plus a été promu et récompensé dans le cadre des trophées Philippe Séguin, puisqu'ils ont mis en place un projet qui est un projet éducatif, parce que n'oublions pas la valeur éducative du football. Nous ne faisons pas simplement que de jouer sur un terrain. Nous faisons aussi, alors sans se substituer à l'État et à l'éducation, au ministère de l'Éducation, sans se substituer normalement aux parents, mais on sait qu'il y a parfois des difficultés, le football, je dirais, est le troisième vecteur éducatif. Ouais. Au travers du programme éducatif fédéral.
Ça fait partie du cahier des charges, ça, des clubs, ou est-ce qu'on vous demande aussi de... Ouais, c'est de fait, vous dites, Pierre Samsonov.
C'est une réalité de fait. En fait, le football a la chance d'accueillir énormément d'enfants, et qui sont en plus des enfants qui choisissent de venir jouer au foot. Ils choisissent pas forcément d'aller à l'école, ils y vont pas tous avec plaisir, ils choisissent de venir jouer au foot. Donc on est dans un cadre dans lequel les enfants sont réceptifs à des messages. Et ça, il faut absolument qu'on s'en serve, parce que c'est très important de former l'élite de demain, ça on est tous d'accord là-dessus. C'est aussi très important de se servir de ce temps qu'est la pratique du football pour former des citoyens. Et de plus en plus, ça fait partie des missions de la fédération et des clubs.
Éric Thomas et ensuite Pierre Rondeau. Éric Thomas.
Oui, il faut revenir à la base. C'est dans les clubs qu'on joue au foot. Hein. C'est pas dans les ligues, dans les districts ou la fédé. Et c'est vraiment les clubs qu'il faut prendre en considération. Nous, on a fait deux propositions. On parlait des transferts qui sont quand même... Les redistributions sont quand même très complexes et injustes. C'est pour ça que nous, on a fait une proposition.
Injuste de quel point de vue ?
Injuste parce que les clubs qui travaillent... un gamin, il vient dans les clubs amateurs à partir de 5 ans. Sauf que le système, il prend à partir de 12 ans. Puis c'est complexe parce qu'il y a une plus-value à partir de 16 ans.
C'est-à-dire qu'on considère que le club a été... Le
travail
club formateur
a été fait entre 5 ans et 12 ans n'existe pas, n'est pas pris en compte. Nous on veut... notre proposition, c'est prise en compte d'un droit réel à la formation dès la première licence. Voilà. comme ça, on reconnaît tous les mérites des clubs. Parce que souvent, à 12 ans, quand le gamin est bon, il va dans le grand club à côté, et c'est lui qui tire les marrons du feu.
Le grand club qui peut être aussi un club amateur, mais voilà.
Aussi, ou un club professionnel. Première proposition. Deuxième proposition, on n'est pas d'accord sur les chiffres d'aide au foot amateur. Moi, j'ai une proposition qui mettra tout le monde d'accord, et je m'adresse à Jackie, trésorier de la Ligue de football amateur. Aujourd'hui, la LFA n'a pas d'existence juridique. C'est une sous-commission de la Fédération française de football. Donc nous, notre proposition, c'est de créer une vraie Ligue de football amateur, l'alter ego de la Ligue de football professionnel, dotée d'une personnalité morale et juridique, et surtout, d'un vrai budget. On dit 80 millions d'euros, eh ben, dotons demain la vraie Ligue de football amateur d'un budget de 86 millions d'euros et on saura ses actions.
Que pensez-vous de cette proposition du coup, Jackie Cerveau ?
Écoutez, moi je sais, créer des structures pour créer des structures, j'en vois pas l'intérêt.
Elle existe déjà.
Cette structure, elle existe.
Donnons-lui une mission et une fonction.
Bah, ça lui donnera peut-être davantage de visibilité.
Elle a une mission, elle a une lisibilité.
Mais elle n'a pas de budget.
Si, on a un budget qui nous est dédié et que nous avons à gérer. Et je peux vous en parler en connaissance de cause et nous rendons des comptes.
Parce que je rappelle que vous êtes son trésorier.
Mais pas au licencié. Pas au licencié.
Pierre Rondeau. Non, je voudrais simplement revenir sur le rôle social et sociétal du football en matière d'éducation au-delà du cadre sportif. Et en rappelant très, très, très brièvement, revenant sur la suppression justement des 1600 postes de conseillers techniques et sportifs, vous l'avez dit qu'ils ne seront pas supprimés, simplement substitués, ils ne seront plus fonctionnaires.
C'est pas très clair.
Mais ce qui est sûr, c'est que s'ils ne sont. En gros, à l'heure actuelle, quand bien même il n'y en ait pas aujourd'hui dans le football, mais plus dans d'autres sports, aujourd'hui, ces conseillers techniques et sportifs sont fonctionnaires. Donc, à partir de là, ont aussi un cahier des charges à respecter, notamment une mission de service public. Et au sein de cette mission de service public, il y a aussi le rôle éducatif, le rôle d'intégration, le rôle de cohésion, le rôle de transmission du savoir au-delà de la transmission sportive. Si demain on retire cette mission de service public par le retrait du statut de fonctionnaire à ces conseillers techniques et sportifs, on pourra voir débarquer un sport, toujours amateur, mais une nouvelle forme de sport amateur, où on n'aura que le sport qui primera, que le sport qui sera noté, qui sera important. Tout le travail éducatif pourra disparaître. On fera, comme vous l'avez peut-être dit tout à l'heure, des entraînements d'une heure intensifs pour former uniquement les jeunes joueurs et joueuses, tout en oubliant le rôle sociétal et social essentiel qu'est aujourd'hui le football et qu'ont aujourd'hui les clubs amateurs.
Pierre Samsonov.
Le rôle social du football, il commence par une chose extrêmement importante, c'est le fait que la pratique soit accessible à tout le monde. Et de ce point de vue-là, alors vous avez parlé de l'augmentation de la licence tout à l'heure.
Ça coûte combien en moyenne, une licence? Une licence en moyenne, c'est 95 euros
au niveau national. Là-dessus, il y a 3,50 € qui sont prélevés par la Fédération française de football. Vous ne trouverez pas l'équivalent dans d'autres sports de ce chiffre-là. Et c'est notre responsabilité, c'est notre volonté de maintenir partout des tarifs accessibles pour la pratique du football. Aujourd'hui, on est sur un sport qui est sans équivalent en termes de coût de la licence. Ça, c'est vraiment une première responsabilité importante, être un sport accessible à tous. Et la deuxième, c'est vrai que on a besoin d'éducateurs pour former les gamins. On a besoin d'éducateurs qui sont compétents, formés. On a une politique de formation à la Fédé qui nous permet d'avoir 35 000 éducateurs formés avec des crédits fédéraux qui ont permis de le faire aussi. Mais c'est aussi un état d'esprit. Et tout ce qu'on fait autour du programme éducatif fédéral, autour du développement d'un discours qui n'est pas seulement un savoir-faire football, mais qui est un savoir-faire comportemental, ça permet aussi de développer cette logique-là.
C'est un sport, dites-vous, Pierre Samsonov, accessible à tous, mais tous ceux qui jouent au foot ne prennent pas leur licence pour y jouer, ne viennent pas forcément dans des clubs. On joue tous au foot quand, on va faire un pique-nique, par exemple, au Bois de Boulogne ou au Bois de Vincennes, pour parler des Parisiens. Est-ce qu'il y a aussi, dans l'idée de la Fédération française de football, d'essayer de peut-être de récupérer un autre public sans que ça soit forcément dans l'idée de participer à un championnat, de jouer à 11 sur un grand stade, mais peut-être de jouer au foot autrement?
C'est un enjeu fondamental pour nous. C'est vrai que la culture de la compétition, elle est évidemment importante dans le sport, mais que de plus en plus, on doit développer un sport loisir qui répond aussi à des préoccupations de santé publique. Le foot en nombre réduit à 5, le beach soccer, c'est des activités qui sont ludiques. On peut aussi organiser du foot à 11 sans compétition, dont le but c'est simplement de se faire plaisir en pratiquant avec des amis parce qu'on a envie de jouer au foot. Et ça, c'est un vrai axe de développement pour nous aussi.
Pierre Rondeau, ce sera la conclusion.
Le e-sport aussi. Le e-sport qui commence aussi à se développer très, de manière très très importante. Il connaît une croissance
exponentielle. Le e-sport, c'est voilà, le sport électronique, enfin les jeux vidéo.
Exactement.
Hein, voilà. Bah, merci beaucoup.
Sport.
Oui, ah bah, figurez-vous qu'on avait justement fait un sujet là-dessus il y a quelques mois. Merci en tout cas beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce sujet. Prochain match de l'équipe de France.
Le
Jackie,
12 cerveau. Octobre à Guingamp contre l'Islande. 11 octobre.
Bravo.
Vendredi.
Enfin, je dis bravo, j'avais pas regardé moi. Merci en tout cas à vous, Jackie Servo, Pierre Samsonov, Eric Thomas et Pierre Rondeau pour avoir participé à cette discussion que vous pouvez réécouter comme tous les jours sur notre site internet franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Vous pouvez également nous écrire et puis voir les extraits vidéo de l'émission. Il faut attendre quelques heures. Attendez demain matin pour le voir sur notre site internet. Du Grain à Moudre, merci à Guillaume Laguigné, Antoine Tricot, Virginie Leduo, Fanny Richer, Antoine Dulster, émission réalisée par Alexandre Fougeron avec à la prise de son Jean Frédérix.